Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Soyez les bienvenus sur Europe 1. Voici une autre forme de politique que nous touchons du doigt ce matin, l'engagement humanitaire. Seriez-vous prêt à donner aussi un peu de votre vie, un peu de votre temps pour une cause au bout du monde? Les Français sont généreux, les dons des particuliers alimentent les grandes associations et les ONG. D'autres bénévoles ou professionnels de l'humanitaire aident, réparent, soulagent, nourrissent, éduquent, protègent des enfants, des femmes et des hommes du Yémen au Bangladesh, du Burkina Faso, en Indonésie. MSF, la Croix-Rouge, l'UNICEF, Solidarité Internationale, Prométhée humanitaire, tous se mobilisent. Alors qui s'engage aujourd'hui? Comment ces associations s'adaptent à chaque conflit, à chaque catastrophe naturelle? Eh bien, on fait le tour de la question ce matin sur Europe 1 pour vous éclairer, pour entendre vos témoignages aussi qui vont nourrir nos propos jusqu'à 11h ce matin. N'hésitez pas, ma chère Julie.
On vous attend au standard le 39-21, 50 centimes la minute.
9h-11h. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Avec nos invités en studio pour commencer, Ronnie Broman, cofondateur de Médecins Sans Frontières, enseignant, aujourd'hui directeur d'études dans cette fondation. Bonjour Ronnie Broman.
Bonjour.
Auteur de Guerre humanitaire, mensonges et intox aux éditions textuelles il y a quelques mois. Claire Fallis est avec nous, directrice et fondatrice de cette association Prométhée humanitaire. Bonjour Claire, dont vous allez nous parler car dimanche, vous engagez la générosité des Français avec une vente de vêtements de créateurs au profit de cette association dont j'aimerais parler pour commencer car elle donne un lien concret justement à notre sujet. Cette mission a commencé pour vous il y a 22 ans, aider, éduquer, accompagner les enfants des rues. Que s'est-il passé dans votre vie pour que vous ayez envie, il y a 22 ans justement, de vous investir dans cette cause en créant Prométhée humanitaire, Claire?
Alors au départ, ce n'était pas du tout un projet puisque j'étais comédienne et j'ai rencontré par hasard les enfants des rues. Et c'est
lors d'un voyage à l'étranger.
Voilà, de vacances, j'étais partie 2 mois en Asie et on a commencé par l'Asie, on avait construit 2 maisons là-bas. Et puis j'ai trouvé qu'il y avait très peu d'engagement sur les enfants des rues, plus sur les orphelins qui ont déjà une bonne base de vie, qui ont été aimés au début. Mmh. L'enfant des rues, il est très mal vu et par les populations et aussi par les centres, parce que il faut s'investir vraiment, autant que dans ses propres enfants, je dirais.
Oui.
Et j'ai eu envie de créer du long terme pour les enfants des rues parce que je trouvais que le court terme n'emmenait à rien. Et puis quitte à faire quelque chose, je voulais le faire vraiment réellement.
Bien et de manière pérenne, ce que vous avez fait, 22 ans maintenant, avec ce slogan, parce que le premier droit de l'homme est d'avoir une enfance. Donc ces enfants des rues, vous les aidez à trouver d'abord un abri, une maison, ensuite à trouver les moyens d'être éduqués.
Oui, une scolarité aussi, surtout, parce qu'on a des enfants qui étaient vraiment des petits SDF dans la rue et seuls, puisqu'il y a pas de retour en famille possible. Mmh. Et de toute façon, les retours en famille sur l'enfant des rues, souvent, il est dans la rue pour des réelles raisons. Donc, il n'y en a que 2 sur 10 qui vont réellement rester dans leur famille et pouvoir être à peu près heureux. Et donc, nous, on leur donne un lieu à long terme. Il y a des petits SDF tout petits qui sont arrivés jeunes, qui ont la chance d'être à l'université. On en a un qui est en bac plus 4 en droit, qui va devenir juge d'enfants.
Dans quel pays, notamment, celui-ci?
À Madagascar. Oui. On en a un qui a fait un bac plus 2 en droit. Enfin, ils ont très envie, à un moment, de se réinvestir dans la solidarité. Mmh. Il y en a un qui a peur de faire autant d'université, il voudrait faire un peu de droit quand même, mais qui voudrait travailler pour la police, par exemple, pour faire appliquer les droits de l'enfant dans les polices locales, où parfois on les passe encore à l'électricité, les enfants sont très très mal traités.
Et c'est beau parce qu'évidemment c'est un cercle vertueux que vous voulez créer, avec cet altruisme qui va se répandre. Dans quel pays vous êtes majoritairement mobilisé pour Prométhée humanitaire? Vous nous parlez de Madagascar à l'instant.
On est beaucoup au Sénégal, à Madagascar et un peu en Haïti. Mmh. Voilà, on a une maison en Haïti aussi.
Voilà l'exemple, et on va y revenir, à votre investissement, Ronnie Broman, d'une association créée comme ça, après un choc quasiment culturel et puis humain, qui est devenue pérenne. 22 ans d'existence, ça fonde déjà la réputation d'une ONG, il y en a à peu près 450 en France. Quel est votre regard, d'abord, sur ces parcours quasiment individuels, personnels, qui deviennent de belles réussites collectives?
C'est un regard très, très positif. Vous savez, la plupart des associations humanitaires ou des organismes d'entraide sont nés de cette manière-là, d'une rencontre entre une personne et un sujet, une cause, et qui ensuite se développe. C'est comme même la Croix-Rouge est née comme ça, Médecins sans frontières également, et Prométhée humanitaire manifestement de la même manière. Je crois qu'il n'y a pratiquement pas d'exception à cela. La suite, évidemment, personne ne la connaît au moment où les choses se font à l'origine. Il y a un certain nombre d'associations qui périclitent, qui ne survivent pas à leur fondateur ou qui ne survivent pas à l'événement qui leur a donné naissance. Et puis d'autres, parce qu'elles sont mieux suivies ou plus ancrées dans un sujet bien réel, continue, persiste, et on en a là un exemple tout à fait positif.
Car on va le dire, nous avons fait une heure sur la politique qui, pour certains, est un métier, pour d'autres, juste une mission. L'humanitaire, c'est un métier, Ronny Broman. C'est-à-dire qu'il faut... Les têtes brûlées dans l'humanitaire, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il faut un projet, il faut être solide, et il faut connaître aussi.
Non, je crois qu'il ne faut pas être exclusif. Il y a des têtes brûlées dans l'humanitaire, il y a des amateurs au meilleur sens du terme, il y a des amateurs au pire sens du terme, il y a des professionnels, là également, dans tous les sens du terme, au sens le plus parfois technocratique, malheureusement, et au sens, à d'autres moments, le plus engagé, le plus construit, le plus conscient des réalités, avec donc une efficacité à la clé. Il y a de tout, l'humanitaire est une grande maison, accueillante, y compris pour des projets qui ne sont pas forcément louables.
Vous avez tracé votre chemin, Claire Fallis, seule, aujourd'hui, vous êtes combien dans cette association? Combien de bénévoles? Combien de statutaires?
On est 170 bénévoles. D'ailleurs, j'ai commencé donc comme bénévole à Médecins sans frontières, ce qui est très, très, très rigolo.
Qu'est-ce que vous faisiez pour Médecins
sans frontières?
Qu'est-ce que vous faisiez comme bénévole? Vous faisiez quoi? Quel type d'action?
Oh, je travaillais avec. En fait, j'ai commencé à la communication et j'ai terminé à Épicentre avec Sophie, et qui m'a dit que c'était très rare les associations qui travaillaient qu'avec des bénévoles comme nous, qu'elle pensait que ça n'existait pas.
Oui, comme vous, Prométhée humanitaire.
Parce qu'il n'y a que des bénévoles, il y a deux emplois mi-temps.
Oui.
Et ça tient depuis 21 ans et on a sauvé à peu près 1500 enfants. Oui. Et voilà, mais quelque part Sophie on m'a proposé de travailler avec vous, puis j'ai dit ce que j'ai commencé sur le côté, personne ne le fera, et je sais que chez vous tout le monde veut travailler.
Voilà, mais là on vous réunit en studio, c'est la plus belle chose.
C'est le
cycle de la vie. Je rappelle, et c'est pourquoi vous êtes avec nous aujourd'hui, Claire Fallis, que dimanche à Paris, dans le 3e arrondissement, à l'espace Comines, vous organisez une vente de vêtements de créateurs, c'est très beau, au profit de votre association Prométhée humanitaire. Ça a lieu chaque année, moi j'y ai participé, ma petite sœur y participe, il se trouve, voilà, c'est le hasard des choses, mais voilà, je vous engage aussi parce que ces dons alimentent aussi de belles manières votre association. On en reparle juste après la pause avec vos témoignages si vous le souhaitez, Julie.
Au 3921. On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro pour envoyer des lettres recommandées en ligne avec la même valeur juridique qu'un recommandé classique.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Seriez-vous prêt à vous engager dans l'humanitaire, à donner un peu de votre vie, un peu de votre temps pour une cause au bout du monde? Vous nous le dites au standard 39-21, on attend vos témoignages.
Alors que les Français restent très généreux en la matière, pour quelle association, quelle cause donnez-vous en particulier? Nous en parlons avec Ronny Broman, cofondateur de MSF, aujourd'hui directeur d'études à la même fondation. Claire Fallis est directrice et fondatrice de Prométhée humanitaire, une très belle aventure humaine qui permet d'offrir à la fois un toit mais aussi une éducation aux enfants des rues à Madagascar, en Haïti, au Sénégal en particulier. Grande vente aux enchères dimanche pour cette cause. Partons avec vous, Ronny Broman, au Yémen, si vous voulez bien. Ce qui se passe à 5000 km de chez nous est terrible, avec une guerre qui fait rage depuis 4 ans, 3 millions d'habitants déplacés, des enfants dénutris qui meurent de faim. L'UNICEF est sur place, évidemment. MSF aussi, qui apporte une assistance médicale d'urgence dans 12 hôpitaux et centres de santé au Yémen. Comment vous travaillez sur place en ce moment, dans ces conditions ?
Mais contrairement à toute attente, nous travaillons dans des conditions relativement bonnes. Nous travaillons des deux côtés de ce conflit, au nord et au sud. On peut dire en gros qu'il y a une ligne qui traverse le Yémen et qui sépare les deux parties belligérantes. Nous arrivons à travailler sur la chirurgie civile et chirurgie de guerre, mais également médecine, parce que dans les situations de conflit armé, les structures médicales sont généralement rapidement sinon hors d'usage, du moins très affaiblies, donc il faut les renforcer, à tel endroit livrer un peu de médicaments ou du matériel, tel autre endroit installer des équipes parce qu'elles n'ont pas pu, ou elles ont dû déserter, elles ont dû quitter les lieux, bref. Nous sommes implantés dans une bonne partie du pays, et ce qui est frappant, c'est d'une part que nous répondons aux besoins, enfin à une partie des besoins qui sont produits par la guerre, c'est-à-dire des blessés, des gens déplacés qui ont besoin d'aide médico-sanitaire. Mais de l'autre côté, les équipes de MSF sont régulièrement surprises par la dramatisation énorme qui est faite à ce sujet. Le Yémen est en guerre et la guerre est toujours atroce pour ceux qui sont directement les victimes. Mais le discours alarmiste dont je parle consiste à dire que le Yémen est le siège de la plus grande catastrophe depuis la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est tout simplement absurde. Enfin, ça n'a aucun sens.
Et qui a intérêt à dire ça? Et pourquoi? Pour quelle raison?
Ah, ça, je ne le sais pas. Je constate simplement que c'est dit, peut-être simplement. Mon hypothèse, c'est que c'est pour la meilleure cause, c'est pour mobiliser des dons, des bonnes volontés, des secours au service d'une population qui en a de fait besoin. Donc je ne veux surtout pas banaliser la situation au Yémen. Elle est très dure du fait qu'il y a une guerre qui fait rage. Mais c'est une guerre qui est tout de même retenue. Il n'y a pas de grands bombardements massifs, il n'y a pas de population poussée en dehors des lieux où elle habite, il n'y a pas de massacre.
Et on parle de 3 millions déplacés pourtant. Et
mais
ça
c'est une guerre civile, c'est le tribal contre le sud, c'est ça?
Oui, c'est une guerre civile dans la mesure où il y a des alliances internes qui opposent les uns et les autres, avec une partie belligérante qui est soutenue par l'Arabie Saoudite et par une coalition qui regroupe notamment la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, donc une coalition occidentale derrière l'Arabie Saoudite, et de l'autre côté, une coalition qui est essentiellement soutenue par l'Iran. Et il y a une sorte d'affrontement régional qui se joue à l'intérieur du Yémen. Il y a l'affrontement, disons, Arabie Saoudite-Iran qui caractérise, disons, une des lignes de tension au Proche-Orient, et puis il y a le Yémen qui est le siège d'une confrontation directe. Mais je tiens à dire que toutes les guerres ne sont pas menées sur le même registre. La Syrie est le théâtre d'une guerre dans laquelle il n'y a pas de quartier. Les bombardements de zones civiles sont, ou en tout cas ont été pendant toute la durée de cette guerre, qui est en train d'arriver à son terme maintenant, un lot commun, une action quotidienne. Ça n'est pas vraiment le cas au Yémen, où le niveau de violence est tout de même nettement plus bas que ce que l'on a vu en Syrie. Mais bon, je pense que la mobilisation a été faite non pas pour des motifs tordus, vicieux, cachés.
Oui, non, c'était pour créer une émotion, un appel au don manifeste. Mais Ronnie Broman, alors...
Mais je ne suis pas d'accord avec ce genre de pratique. Je pense qu'on doit... La vérité est suffisamment forte pour qu'on s'en tienne à elle, et si elle ne l'est pas, c'est pas la peine à ce moment-là de faire quelque chose.
Cela dit, ça peut susciter des vocations, et vous le savez bien, cette espèce de cœur sur la main magnifique pour certains qui se disent « moi j'ai envie d'être utile justement ». Il y a le service civique qui permet notamment à des jeunes entre 16 et 25 ans de partir 6 mois, 12 mois sur le terrain. Que dites-vous à tous ceux qui voudraient justement venir aider sur place ces associations, d'UNICEF à MSF? Est-ce que c'est leur place à ces jeunes en particulier?
Mais disons, ça n'est pas à la place des jeunes en particulier et en général, pas plus des jeunes que des vieux. Non, en général, ce sont des gens qui ont du temps et une compétence à offrir. Il faut avoir les deux. Un savoir-faire pratique, qu'il soit d'ordre administratif, logistique ou plus spécialisé dans le soin, l'enseignement.
Oui, donc il faut être formé, avec une expertise.
Mais il faut avoir une compétence à apporter, faute de quoi on est là à traîner, à regarder les autres faire. Parce que s'il s'agit simplement de bras... Des bras, il y en a partout, ça n'est pas ça qui manque. Mais à certains moments, ce qui manque, ce sont des compétences spécifiques. Donc aux jeunes qui ont envie de s'engager, je ne peux que tenir un discours un peu parental, mais ils m'en excuseront parce que c'est la réalité toute simple. Faites des études, formez-vous à un métier, et mettez ensuite cette compétence de métier au service de l'entraide, de la solidarité, de l'humanitaire.
Merci Renée Broman. Pauline, c'est probablement ce qu'elle nous dira également. Elle revient du Bangladesh, elle travaille pour Solidarité Internationale depuis 10 ans en ressources humaines. Donc elle est chargée aussi de recruter les bras et les talents qui iront essaimer un peu partout dans le monde. Jonathan sera également avec nous, équipier expérimenté qui fête ses 10 ans d'engagement aux urgences pour la Croix-Rouge française. On fait le tour de cet engagement humanitaire. Comment faites-vous votre part, si vous le souhaitez aussi, en mettant en avant un certain nombre d'associations, notamment Prométhée Humanitaire aujourd'hui. À tout de suite sur Europe 1. Julie, on vous attend.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Europe 1.
Et on revient à notre sujet du jour, l'humanitaire. Est-ce que vous seriez prêt à vous engager dans l'humanitaire?
Oui, nous partons, nous sommes partis un instant au Yémen, au Cameroun, en Indonésie, au Burkina Faso, en Bangladesh. Nous allons un petit peu partout dans le monde pour faire état de ce qui se passe sur le terrain, de ce dont ont besoin aussi les associations. La population locale, il faut le rappeler, vient en aide d'abord lors des catastrophes naturelles. Renée Broman, on a fait une émission ensemble et vous nous aviez vraiment mis cette réalité aussi en avant. Vous nous aviez appris d'ailleurs les choses, parce qu'on a toujours l'impression que les associations françaises, par exemple, dépêchent leurs troupes quand il y a un tsunami, quand il y a des catastrophes, mais ce sont d'abord les locaux qui agissent, hein. Ça il faut le dire.
Oui, oui, c'est une réalité qu'on constate partout. Quand il y a une catastrophe, contrairement à une idée reçue, les populations ne sont pas figées, sidérées, incapables de réagir. Bien au contraire, on voit toujours, et cela, où que ça se passe, que ce soit dans les Alpes ou dans l'Himalaya, que ce soit en Europe ou en Asie ou en Afrique, on voit émerger des figures qui organisent soit déjà des gens qui ont une certaine position de notable, de maire, de préfet, de leader religieux, peu importe, ou bien des gens qui sont jusqu'alors anonymes dans la population et qui se sentent une sorte de vocation d'organisateur. Et cela, on le constate partout, et toujours, la population victime reçoit des soins, une aide, un toit, de la nourriture, éventuellement des couvertures ou de quoi se chauffer, oui, dès les premières heures qui suivent la catastrophe. Donc, ça ne veut pas dire que les organisations étrangères sont inutiles, mais ça veut dire qu'elles viennent en complément de cela. Mmh. Il faut en avoir conscience. Mmh. Pour ne pas imaginer qu'on vient tout installer, telle la Père Noël vient distribuer ses bienfaits. Mm. Mais si on a cette notion en tête, on peut se rendre extrêmement utile en aidant des efforts qui sont déjà en place ou en les complétant. Mais pas en s'imaginant qu'on va tout régler, parce qu'à ce moment-là, on se disperse et on ne sait plus où on est.
Alors, il y a plusieurs choses. L'aide d'urgence dont on parle à l'instant, et puis l'aide au long cours, comme vous le faites, Claire Fallis, avec Prométhée Humanitaire. En 22 ans, 1500 enfants des rues, sauvés de la rue. Là, vous devez être très fiers, parce que vous nous parliez de ces parcours, et notamment de ces jeunes qui étaient dans la rue et que vous avez amenés à faire des études supérieures. Ça, c'est pas l'urgence, ou plutôt c'est l'urgence du quotidien pour ces jeunes-là. Mm-hmm. Ils sont combien d'enfants des rues dans le monde aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a un recensement de cette horreur?
Alors, peut-être que M. Broman, il va mieux.
Ça se chiffre en millions, en tout cas.
Bah oui, évidemment.
Non, mais parce qu'en plus, la définition n'est pas si facile que ça. Quand on parle d'enfants des rues, on parle d'enfants qui vivent entièrement dans la rue, ou bien d'enfants qui sont partiellement dans la rue, c'est-à-dire qui ont une famille le soir, mais qui, dans la journée, pour des raisons diverses, n'ont pas d'autre lieu que la rue. Et il y a des catégories qui sont assez différentes, en fait, si bien que le recensement quantitatif est extrêmement difficile à faire. On sait qu'il y en a beaucoup, qu'il y en a trop, et c'est déjà ça.
Et comment vous les approchez,
l'enfant au Sénégal?
Comment vous les approchez sur le terrain?
Très naturellement, je vais jouer avec eux, je leur parle. On a des équipes qui vont régulièrement aussi dans les points de chute.
Ouais, pour voir s'ils ont des familles ou pas, déjà.
Oui, après, il y a des enquêtes, bien sûr. Mmh. Un enfant, il y a toujours une enquête. Il y a parfois, même souvent, des familles. Et puis, il y en a qui en ont plus, comme les derniers petits là, que j'ai recueillis.
Vous avez recueilli où, ces enfants? Où ça? Ils viennent d'où?
Ils viennent de Madagascar, sur les trottoirs de Madagascar. Et donc, c'est des enfants qui étaient... Les deux, là, il y en a un petit, c'est un enfant d'un SDF qui est mort dans la rue, alcoolique, qui a laissé ce petit garçon dans la rue avec la tuberculose. Là, il a 6 ans, donc il est à l'hôpital pour l'instant. Mais il va de mieux en mieux, je l'ai eu hier par WhatsApp.
Oui.
Et puis donc on en a un autre de 8 ans, c'est pareil, c'est un parent SDF dans la rue. Mmh. Et la petite fille, elle errait dans la rue Il y a des enfants, les parents partent à droite, à gauche.
Et ces trois petits, vous avez une place, vous avez une maison pour...
Oui, on a des maisons donc à Madagascar, Haïti, Sénégal, et ils rentrent dans une autre forme de famille. C'est un centre, hein, c'est professionnalisé, mais on garde cet esprit de famille. D'ailleurs, les anciens enfants amènent leurs enfants, viennent montrer leurs enfants.
Avec des bénévoles, donc, essentiellement, qui travaillent dans ces centres?
Avec non.
Là, pour le coup, ce sont des professionnels.
Il faut des salariés. D'accord. Il faut une structure
D'aide à l'enfance.
Voilà. Après, il y a parfois des bénévoles qui partent certain nombre de mois sur place, mais il y a une structure organisée sur place.
Voilà comment vous faites votre dû pour sauver ces enfants les uns après les autres. Je suis heureuse d'accueillir Pauline qui est avec nous au 3921. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Pauline Carterie, vous travaillez chez Solidarité Internationale depuis 10 ans. Il se trouve que vous revenez du Bangladesh. Qu'avez-vous vu sur place et que faisiez-vous sur place pour le compte de votre association?
Alors, sur place, on aide les réfugiés Rohingyas en apportant de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. J'ai été là-bas pour soutenir les équipes dans leur gestion des ressources humaines, qu'elles soient surtout nationales, puisque sur place, nous avons à la fois des expatriés, des personnes que l'on recrute internationalement, mais également plus de 250 employés nationaux qui travaillent pour nous sur place.
Très bien, vous allez nous expliquer ça dans le détail juste après la pause, ainsi que Jonathan qui travaille pour la Croix-Rouge française comme équipier expérimenté. A tout de suite sur Europe 1.
Nous parlons de l'engagement humanitaire jusqu'à 11h avec Wendy Bouchard et ses invités. En studio avec nous, Ronnie Broman, qui est cofondateur de Médecins sans frontières, auteur du livre « Guerre humanitaire, mensonges et intox » chez Textuel. Et elle est avec nous aussi en studio, Claire Fallis, directrice et fondatrice de Prométhée Humanitaire. Et nous sommes en ligne avec Pauline Carterie, qui est chez Solidarité Internationale depuis 10 ans.
Oui, vous revenez du Bangladesh, Pauline, vous nous le disiez, et vous répondez aux conséquences de l'afflux de 700 000 Rohingyas venus du Myanmar, du pays voisin. Vous occupez des ressources humaines en gérant les troupes, si j'ose dire, à la fois les expatriés qui peuvent vous aider. En gros, on est à la fois bénévoles, volontaires, salariés, c'est toutes ces équipes-là que vous gérez sur place?
Alors, chez Solidarité Internationale, tous nos employés sont salariés, qu'ils soient internationaux, donc expatriés ou nationaux. Et dans ce cadre-là, nous avons évidemment une gestion quotidienne de nos équipes, qu'elles soient administratives, de management, d'évolution de carrière, etc.
Ça veut dire que vous mettez vraiment en avant les compétences, on en parlait avec Ronnie Broman, professionnelles, pour ce qui vous concerne.
Tout à fait, exactement. Comme on disait tout à l'heure, l'engagement est évidemment nécessaire quand on travaille dans l'humanitaire, mais ce n'est pas le seul élément qu'on recherche, puisqu'on recherche avant tout aussi des personnes compétentes pour mettre en œuvre tous les jours nos activités sur le terrain, qui sont évidemment essentielles à la bonne qualité de nos activités et à notre redevabilité envers nos bénéficiaires.
Quelle est la spécificité de Solidarité Internationale par rapport aux autres ONG qui peuvent agir sur le terrain?
Chez nous, nous sommes spécialisés spécifiquement dans l'accès à l'eau, l'assainissement et l'hygiène, mais également en sécurité alimentaire et moyens d'existence.
D'accord. Donc, vous faites affluer à la fois la nourriture, les possibilités de raccorder l'eau à l'eau potable, ou en tout cas d'amener de l'eau aux populations. Tout ça issu de dons, et de dons notamment français?
Pas que. Les dons sont une partie de l'argent qui nous sert à mettre en œuvre nos activités tous les jours, mais c'est également des budgets via des bailleurs de fonds qui nous financent au quotidien toute l'année et qui permettent de mettre en œuvre nos activités tous les jours.
Oui, vous travaillez avec les populations locales, évidemment pour les populations locales, mais avec les associations locales également d'aide humanitaire.
Oui, ça arrive dans certains pays, dans certains contextes. Nous avons des partenariats avec soit d'autres ONG internationales, soit d'autres ONG locales, afin d'avoir des activités potentiellement complémentaires où chacun aura sa spécificité et apporter une aide beaucoup plus efficace au quotidien.
Oui, et voilà comment l'humanitaire ne se transforme pas en ingérence. Précisément, Ronnie Broman, c'est compagnonner avec les associations en local, qu'elles investissent complètement cette part aussi d'énergie.
Oui, enfin, disons, il y a toujours une petite part d'ingérence, bon. Parce que nous sommes des étrangers qui venons nous mêler d'affaires qui ont forcément une certaine dimension politique. Après tout, la misère, la violence, l'exclusion sociale, ce sont des phénomènes qui ont une racine, une matrice politique. On vient en traiter un certain nombre des conséquences. Mais donc, nous sommes tout de même des étrangers qui venons nous mêler de choses qui sont a priori pas de notre ressort. Donc, il y a une certaine dimension d'ingérence. Mais ce mot d'ingérence recouvre des réalités qui seront très diverses. Celle-ci, dont nous vous en parlez, qui est une ingérence, disons, parfaitement pacifique, explicable et généralement bien accepté. Généralement, il y a des exceptions, mais généralement bien accepté par la population et les autorités. Donc elle ne pose pas vraiment de problème, même si parfois il y a des petites frictions entre nationaux et étrangers, parce qu'il y a des sensibilités qui ne coïncident pas nécessairement, ou des rythmes d'action.
Et ce que vous dites vaut aussi pour la santé, parce que vous parlez aussi pour le nom de Médecins Sans Frontières aussi.
Médecins Sans Frontières n'agit que dans le domaine médical, sanitaire, disons de la santé publique jusqu'à la chirurgie d'urgence. On couvre un large territoire de l'action médicale, mais c'est tout de même avant tout de l'action médicale. Mais pour revenir à l'ingérence, il y a d'autres formes d'ingérence qui ont cours, disons, depuis les années 90, qu'on pourrait appeler l'ingérence armée, l'ingérence militaire, l'envoi de contingents, de soldats, pour régler une situation. Et là, on est dans un tout autre registre, généralement catastrophique. Ouais. Hein, le dernier en date, c'est l'intervention dite humanitaire en Libye, où on a mis à bas un régime dictatorial avec l'idée de faire germer la démocratie, le respect des droits de l'homme, l'état de droit, etc. Et on voit ce qu'il en est, une guerre civile interminable dans laquelle les intervenants extérieurs, la France, le Qatar, les Anglais, etc., ont une responsabilité primordiale parce que ce sont eux, enfin c'est nous d'une certaine manière, cette coalition improbable qui a créé cette situation critique. Donc, vous voyez, entre quelques équipes humanitaires qui viennent se mêler de choses qui ne sont pas directement de leur ressort, mais tout de même qui sont compréhensibles, parce que humainement, nous sommes tous logés à la même enseigne, la même vulnérabilité, la même fragilité qu'on peut venir tenter de renforcer. Et puis de l'autre côté, à l'autre bout de la chaîne, des interventions armées aux conséquences catastrophiques. Tout cela peut s'appeler de l'ingérence, mais ça n'est pas exactement la même chose.
En tout cas, j'ai envie d'avoir votre sentiment, Claire Fallis, pour Prométhée Humanitaire, sur le travail que vous faites sur le terrain avec les associations locales, avec ces populations. C'est fondamental, cette approche complémentaire pour vous.
C'est important, cette approche, mais nous, on est assez petits et on est assez libres. Après, on a évidemment une approche avec les juges d'enfants, les affaires sociales, etc.
Tous ces professionnels-là étant des locaux, hein, à la fois à Madagascar, en Haïti ou au Sénégal.
Moi, je travaille avec des locaux. Oui. Et en général, ils nous aiment bien. Mmh. Alors, en Haïti, ils ne le disent pas toujours parce que c'est compliqué. Enfin,
c'est plus dur comme société.
Il y a un héritage et une vision des associations humanitaires qui est assez dure. Et puis, mais sinon, au départ, ils vous ignorent un peu, ils vous méprisent. Moi, je travaille sur du long terme. Donc, il est arrivé, par exemple, à Madagascar, que je fasse une fête avec tous mes enfants pour fêter les 10 ans. Mmh. Et j'invite évidemment tous les locaux. Et ils voient ces enfants qui ont presque l'air de petits bourgeois. Enfin, ils ont l'air de nos enfants. Ouais. Ils ont eu de l'amour. Qui viennent parler, qui viennent chanter, qui viennent les inviter à danser parfois. Enfin, bon, qui sont pleins de vie. Et ils les ont vus dans la rue. Ils les ont rencontrés dans leur bureau. Et il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas renier. Voilà. Donc, avec le temps, on a gagné un regard.
Oui, et ces maisons sont les leurs aussi.
C'est la même chose. Hein, si on a un enfant un peu fou, ça arrive qu'on ait des enfants un peu fragiles, etc. S'ils se comportent mal, malheureusement, on a leur image à traîner aussi.
Oui. C'est dans les deux
mauvaises
sens.
Langues.
C'est dans les deux sens.
Mais on n'a pas trop de mauvaises langues. On n'a pas trop de problèmes avec les locaux.
Voilà, et au contraire, vous avez
même envie. Tout le monde jongle. Hein, c'est un peu compliqué parce que il y a une telle histoire déjà leur histoire personnelle.
Beaucoup de traumatismes qui expliquent peut-être aussi la méfiance
des associations.
Bien sûr. Dans un instant, on se retrouve Claire Fallis, Rony Broman, Pauline Carterie. Encore une petite question pour vous. Et j'accueille Jonathan pour la Croix-Rouge française, avec le lancement d'ailleurs demain de la grande quête.
Oui, de la quête nationale de la Croix-Rouge. Elle commence demain et elle durera jusqu'au 26 mai.
Voilà, ça fait partie des journées nationales.
On les voit au feu rouge en général.
Exactement.
Avec
vous avez le petit autocollant après. Voilà. Pour la bonne cause, à tout de suite.
Sur le pare-brise.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Le tour de la question sur l'engagement des humanitaires sur les terrains sinistrés, les terrains en guerre et leur mission, aide urgente, reconstruction ou encore accompagnement éducatif. Wendy Bouchard.
Oui, à chaque grande ONG, sa spécificité. Quasiment, vous en connaissez les grands flambeaux aujourd'hui. MSF, la Croix-Rouge, on y sera. Solidarité internationale est avec nous. Prométhée humanitaire. Pauline Carterie, avant de vous libérer, 10 ans d'expérience donc chez Solidarité internationale. Vous revenez du Bangladesh. Vous parliez de tous ces salariés qui vous accompagnent, de la professionnalisation de ces équipes que vous gérez aux ressources humaines. Dans certaines organisations, on fait à ces salariés changer un petit peu de fonction, de manière à leur apporter à la fois respiration, connaissance très administrative et expertise, et connaissance du terrain. C'est ce que vous faites aussi à Solidarité internationale ?
Oui, tout à fait. On a des équipes très variées, comme on le disait en début d'émission, des personnes qui sont spécialisées dans les activités elles-mêmes que l'on met en place sur le terrain tous les jours, des ingénieurs hydrauliques, etc., mais aussi des personnes qui s'occupent de la gestion financière, RH, logistique, etc. Et dans ce cadre-là, nous mettons un point d'attention à évidemment accompagner nos équipes, plus particulièrement en ONG, puisque c'est des milieux assez stressants dans lesquels les personnes ont décidé des situations difficiles au quotidien, mais également un point d'attention sur leur gestion de carrière évidemment et à leur évolution dans la structure et dans le milieu humanitaire.
Merci Pauline Carterie. Alors c'est une question qui ne se pose pas pour vous, Claire Fallis, qui avait engagé une partie de votre vie depuis 22 ans avec essentiellement deux mi-temps, mais autrement que des bénévoles, les populations locales en l'occurrence qui sont mobilisées sur place à la Madagascar, au Sénégal, en Haïti. Mais vous comprenez cette nécessité aussi de passer d'un poste à l'autre pour avoir une connaissance de ce qu'est aujourd'hui une politique humanitaire. Vous l'avez fait dans un créneau très précis. Vous avez appris.
Oui. Il y a une petite chose qui est parallèlement que je voudrais indiquer. C'est évidemment, on cherche des gens compétents, une organisation, mais parfois, au nom de la compétence, on perd en qualité humaine. Et je pense que, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais dans les premiers humanitaires, il n'y avait pas que des incompétents, dans les gens qui n'avaient pas spécialement de diplôme. Aujourd'hui, parfois, on voit des humanitaires qui sont très compétents, mais qui ne mangent pas avec la population, qui n'a plus de lien. Il y a un petit charme de cœur qui peut disparaître. Pas toujours, hein. Il y a des gens compétents et qui ont du cœur, évidemment.
Oui, mais il faut faire
attention à ça. Oui. Donc, moi, je pense qu'il faut, pour travailler dans l'humanitaire, effectivement de la compétence, mais aussi une qualité de cœur, d'écoute, et d'ouverture aux autres peuples.
Oui, ce qui se passe aussi pour vous, Jonathan. Bonjour, merci de nous rejoindre au 3921. Jonathan Haber.
Oui,
bonjour. Vous qui avez un travail dans la vie, quel est-il?
Je travaille comme chef de projet pour une agence d'architecture.
Très bien. Et par ailleurs, vous êtes équipementier pour la Croix-Rouge. Ça fait 10 ans que vous êtes engagé aux urgences pour le compte de cette grande association. Quel est votre rôle pour la Croix-Rouge?
Je travaille comme équipier eau et assainissement, oui, tout à fait.
Qu'est-ce que ça veut dire alors sur le terrain?
C'est-à-dire que je suis responsable de l'évaluation des besoins et de l'installation d'équipements en réponse aux urgences sur les thématiques d'eau et d'assainissement.
Par exemple, là, vous revenez tout juste du Mozambique?
Oui, tout à fait, oui.
Vous avez passé combien de temps là-bas?
3 semaines.
3 semaines.
Première rotation. Oui.
D'accord, en première rotation pour voir justement les besoins nécessaires. Ensuite, vous faites votre plan d'action et l'association vous suit en envoyant le matériel qu'il faut.
Alors, c'est un tout petit peu plus punchy que ça, parce que l'équipement arrive en même temps que nous.
D'accord.
Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire les évaluations le plus vite possible, rencontrer le plus de monde possible en local. Donc là, en l'occurrence, c'était l'agence de l'eau, les communautés, pour pouvoir installer le matériel, avoir suffisamment d'éléments en main pour pouvoir installer le matériel et répondre aux besoins dans l'urgence. Ouais.
Oui, Mozambique, Haïti en 2011, la Grèce en 2015. Vous faites ça bénévolement, Jonathan ?
Oui, tout à fait.
Oui, donc ça veut dire que vous prenez 3 semaines sur, voilà, 3 semaines de vacances, mais pour aller faire un vrai travail sur place d'expertise.
Oui, alors là, je suis très reconnaissant vis-à-vis de mon employeur qui m'a laissé partir sur mon temps de travail. Donc, j'ai pas eu besoin de prendre de congé.
Ah, formidable.
Mais effectivement, oui.
Bon, on est dans l'expertise et là, vous rejoignez Ronnie Broman, expertise, mais expertise de cœur aussi. Voilà, il faut bien connaître la culture locale, les besoins de la population, même moraux, pour bien s'implanter, j'imagine, avec des associations de la sorte.
Enfin, bien connaître la culture locale, peut-être pas d'abord, parce que c'est pas évident, comment on définit la culture locale, et puis on ne peut pas connaître tout, de toute façon. Mais c'est une chose, de ne pas connaître tout, ça est une autre, d'être hautain, fermé sur soi-même, arrogant, comme ça peut arriver.
Et
Claire avait tout à fait raison de dire tout à l'heure qu'il ne faut pas non plus mythifier la compétence. La compétence est une chose, mais enfin les qualités humaines en sont une autre. Je dirais d'ailleurs que ça ne relève pas spécifiquement de l'humanitaire. C'est vrai en général dans n'importe quelle entreprise, entreprise au sens large, une entreprise c'est peut être une association, c'est un endroit où on entreprend également. Donc je veux dire entreprise vraiment au sens très large, les qualités humaines comme les qualités professionnelles sont finalement d'importance équivalente. Ça peut prendre des formes plus rudes encore dans l'humanitaire parce qu'il y a du fait qu'on est expatrié, du fait qu'on est dans des statuts sociaux extrêmement différents, une tentation d'abus de pouvoir, enfin une possibilité en tout cas d'abus de ce pouvoir, une invitation à se prendre au sérieux, à se croire sorti de la cuisse de Jupiter, bref, une invitation à la démesure à laquelle il faut prendre garde. Donc c'est plus accentué sans doute dans les organisations humanitaires ou d'entraide internationale, mais c'est tout aussi vrai qu'ailleurs, c'est-à-dire les qualités humaines, les qualités de cœur, comme disait Claire, ne sont pas moins importantes que les compétences professionnelles.
Et si vous dites ça l'un et l'autre, c'est que vous avez été confronté, j'imagine, à ce type de profil. Encore quelques secondes, juste après la pause avec vous, Jonathan, pour la conclusion de ces différentes missions et votre investissement de cœur, de temps et de compétences. À tout de suite sur Europe 1 pour faire le point sur l'humanitaire. Seriez-vous prêt, vous aussi, à vous engager? Que faites-vous? Pauline, Jonathan viennent de le prouver, ainsi que Claire et Ronnie Broman. À tout de suite.
Seriez-vous prêt à vous engager dans l'humanitaire? Il y a en France 450 ONG, avec en tête l'UNICEF, la Croix-Rouge ou encore Médecins Sans Frontières. Wendy Bouchard.
Petit message de Gabriel Mathieu sur le hashtag Europe 1 qui salue cette émission. L'humanitaire, il en est. Ce n'est pas uniquement des ONG, comme le montre votre intervenante de Solidarité Internationale. Il y a une très grande diversité dans ces métiers. C'est ce que vous avez prouvé, chers amis, en effet. On continue encore quelques instants. À l'occasion aussi d'une grande vente aux enchères. Parlons-en quelques secondes avant de reparler de Jonathan Clairefalis. Pour Prométhée Humanitaire, 22 ans d'existence de cette association que vous avez créée après un voyage au Vietnam, vous avez rencontré ces enfants des rues. Vous en aidez 150 aujourd'hui, chaque année, 1500 depuis le début de cette association qui a retrouvé les chemins de l'école, puis bientôt un métier. Que faites-vous dimanche? Ce sera à Paris, dans le 3e arrondissement, à l'espace Comines.
On se retrouve avec tous les bénévoles qui ont permis cette belle aventure de sauver tous ces enfants. Et on fait une vente avec plein de grands créateurs, Isabelle Marant, Agnès B., Véronique Leroy, des petits hauts. Voilà, et c'est des objets et de la déco, de luxe, neufs, et qui est vendu évidemment à prix bradé, dans un beau décor. Mais on peut aussi se faire masser au premier étage, on peut se faire tirer les cartes. C'est toujours une ambiance très
chaleureuse. Pour récolter combien à peu près chaque année?
Alors généralement, j'aime pas le dire, mais bon.
Non, mais c'est important.
Alors, on peut faire 60 000 à Noël.
Oui.
Et 50 000 en mai.
Oui. Et avec cet argent, par exemple, directement,
et
qu'est-ce que vous faites?
C'est même pas encore assez pour faire vivre nos centres.
Oui.
Il faut le savoir, parce que maintenant, on a des enfants à l'université, parce qu'il y a les soins médicaux qu'on paye.
Bien
et
sûr.
On paye tout. Voilà, l'école, on essaye de les mettre dans des bonnes écoles dès qu'ils ont le niveau. Prométhée, c'est vraiment une histoire de cœur. On n'a rien à montrer à personne. Donc, ces enfants-là, on essaye le plus possible de faire comme on ferait avec les nôtres. C'est-à-dire, s'ils ont la capacité, on les pousse à l'école, on les aide, et puis les autres, ben, on les aide à faire...
Bien, ça c'est pour Prométhée Humanitaire et c'est magnifique. Jonathan Haber pour la Croix-Rouge, équipe expérimentée depuis 10 ans, vous revenez du Mozambique. Vraiment, on salue avec Ronnie Broman, votre employeur, qui vous a laissé là en l'occurrence partir 3 semaines pour faire votre compte de bénévole et pour aider à l'assainissement et à l'arrivée d'eau potable au Mozambique. Ça c'est assez rare. Vous en parlez avec lui de cet engagement, Jonathan, j'imagine ?
Oui, j'en suis très reconnaissant aussi. J'ai une présentation la semaine prochaine à ma direction, oui. En espérant que j'aurai l'opportunité de le refaire dans les mois ou les années à venir.
Et
je pense que c'est malgré tout un engagement des entreprises qui est de moins en moins rare, hein, dans le cadre de leur politique de responsabilité sociale, de comprendre que ce temps donné, c'est pas du temps perdu. C'est important,
oui. Oui, c'est important. C'est peut-être pas tout à fait diffus encore suffisamment, mais on souligne la grande quête nationale qui commence pour la Croix-Rouge.
Oui, qui commence demain.
Demain, Julie.
Et qui dure jusqu'au 26 mai.
Merci beaucoup, Jonathan. Un petit mot de conclusion, quelques secondes, Ronnie Broman, sur cet engagement humanitaire qui a été un des fils de votre vie pour MSF et qui nourrit à la fois le rêve et le quotidien de beaucoup.
Oh, moi, je ne suis pas très doué pour conclure. Je dirais simplement que c'est un engagement qui... rapporte beaucoup du point de vue humain, du point de vue intellectuel, du point de vue culturel, et que c'est une récompense constante, même si c'est marqué par forcément, à certains moments, des difficultés ou des moments de découragement.
Merci Ronnie Broman. Votre ouvrage « Guerre humanitaire, mensonges et intox » et allez dimanche à l'Espace Commune si vous êtes à Paris, dans le 3e arrondissement, pour la vente au profit de prométhéehumanitaire.org.
17 rue Comines, 17 mais profit du calvaire. Merci. Je veux dire merci à Monsieur Broman aussi et que son association est formidable et qu'elle a un lien
merci
avec
beaucoup.
Le terrain extraordinaire.
Merci beaucoup et merci. À lundi, chère Julie. Merci pour votre fidélité, chers amis, à lundi. C'est un bon week-end à l'écoute d'Europe 1.
C'était le tour de la question avec laposte.fr/pro. La solution des pros pour gagner du temps. Plus besoin de se déplacer. Vous imprimez vos timbres depuis votre bureau.